Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. La CEDEAO maintient toujours ses sanctions contre le Mali. Selon des économistes, il est difficile pour un pays comme le Mali de tenir économiquement face à cet embargo. Ils préconisent aux autorités maliennes de trouver un terrain d'entente avec l'organisation sous-régionale. La situation du Mali était au centre d'une réunion entre la force conjointe du G5 Sahel, l'ONU et l'Union européenne. Cette rencontre s'est tenue ce mardi à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne. Le dossier de la réaction s'intéresse aujourd'hui à la campagne agricole 2020-2021 à Koutiala. Concernant les céréales, les acteurs du secteur s'attendent à une bonne campagne cette année. Les détails de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Philippe Dambélé est à la technique. Bonsoir à tous et bienvenue. Plus d'un mois que le Mali est sous embargo de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest après la désignation du président, du vice-président de transition et la nomination d'un premier ministre. La CEDEAO estime que des zones d'ombre existent encore sur la gestion de cette transition. Pourtant, des économistes affirment que le pays ne pourra pas tenir longtemps dans cette situation. Ils estiment qu'il faut répondre aux exigences de l'organisation ouest-africaine. Pour plus de détails, suivons ce point avec Lendi Moussa Diallo.
Pour l'économiste Mamoutou Soumaré, difficile pour un pays continental comme le Mali de résister longtemps face aux sanctions de la CEDEAO. L'universitaire estime qu'à la longue, le pays peut faire face à un défaut de paiement des salaires des fonctionnaires, ce qui pourrait impacter négativement l'économie du pays.
Si vous prenez la carte de la CEDEAO, on constate qu'on a trois pays continentaux, le Mali, le Burkina et le Niger. Tous les autres pays de la CEDEAO ont une frontière maritime. Quand on fait un embargo, ça ne va concerner réellement que trois pays. Parce que si on fait un embargo demain sur la Côte d'Ivoire, c'est pas leur problème. Eux, ils ont un accès maritime.
On répond aux exigences de la CEDEAO parce qu'on peut pas réellement compter sur nos propres forces. Là, c'est vraiment très, très, très difficile. Si les salaires des fonctionnaires ne sont pas payés, c'est un grand pan de l'économie qui va être bloqué.
Autre conséquence de ces sanctions, c'est le risque d'un ralentissement de la production dans le pays, prévient Aminata Diallo, responsable d'entreprise au Mali. Selon elle, depuis l'embargo, les marchandises sont bloquées au niveau des frontières.
Le plus gros problème qu'on a, c'est nos marchandises, nos équipements qui sont bloqués à la frontière depuis un moment. Ça ralentit la production, ce qui fait qu'il n'y a pas de travail. On sera obligé de mettre les gens en chômage technique. Et ça, c'est les chefs de famille et c'est vraiment pas facile. Et les éleveurs qui vendent une grande partie de leurs animaux dans les pays voisins, le coût est très rude pour la population.
Pour les économistes, les autorités maliennes doivent rapidement trouver un terrain d'entente avec la CEDEAO pour que le pays ne s'arrête pas. Selon plusieurs sources, la CEDEAO aurait toujours des réserves, notamment sur le poste de vice-président et ses prérogatives.
Et des décrets de nomination ont été publiés hier. Ainsi, sont nommés secrétaire général de la présidence avec 42 ministres, M. Sekou Traoré, colonel Sambala Sidibé, intendant des palais à la présidence de la République, chef de cabinet de la présidence de la République, M. Mamoutou Traoré, et directeur administratif et financier de la présidence de la République, lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Toukara. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une réunion entre la force conjointe du G5 Sahel, l'ONU et l'Union européenne s'est tenue ce mardi à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne. La rencontre vise à conjuguer les efforts pour mieux lutter contre le terrorisme dans les pays du Sahel. La situation du Mali était aussi à l'ordre du jour. Amsetou Touré nous fait le point.
Les échanges ont porté sur l'équipement militaire de la force conjointe du G5 Sahel. Cette force doit être dotée dans les jours à venir de 24 véhicules de transport de troupes promis l'année dernière par l'Union européenne. La rencontre a permis également de faire le diagnostic des obstacles qui entravent le travail du G5 Sahel. Dans ce contexte, le secrétaire exécutif du G5 Sahel a salué le soutien technique et financier de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et dans la recherche de la sécurité et de la stabilité dans la région du Sahel. La situation du Mali a été aussi abordée lors de la rencontre. Nous attendons le reste de la formation du nouveau gouvernement et on espère que cela ne va pas tarder. La lutte contre le terrorisme et nos activités en général, a déclaré le chef de la MINUSMA au Mali, Mahamat Saleh Anadif. Par ailleurs, une unité des forces armées maliennes est tombée dans une embuscade mardi. L'incident s'est déroulé sur l'axe Boni-Nokara dans le cercle de Douanzan. Le bilan est de 2 morts côté Fama et 7 blessés qui ont été évacués par l'aviation malienne et la MINUSMA.
La campagne agricole 2020-2021 a connu des hauts et des bas à Kuchala. Selon les acteurs du secteur, les difficultés tournent autour de l'installation tardive des pluies, la distribution des intrants, l'apparition des ravageurs. Néanmoins, concernant les céréales, l'espoir pour une bonne campagne est permis selon les producteurs qui estiment que la pluie est bien répartie dans le temps et dans l'espace. Faisons le point de l'évolution de la campagne agricole à Kuchala avec ce reportage de notre correspondant David Koulibaly.
L'une des difficultés est la tension qui a éclaté entre les producteurs de coton et l'État au tout début de l'hivernage. Certains cotonculteurs ont même boycotté la culture du coton et ont préféré remplacer ces produits par des céréales, explique Fousseini Traoré, président de la Chambre locale d'agriculture de Kuchalan. Il affirme que l'autosuffisance alimentaire sera assurée avec des prix à la portée des consommateurs.
Les cotonculteurs qui faisaient 10 hectares de coton ont converti ces 10 hectares en céréales, ce qui fait que cette année, on peut se frotter déjà les mains en disant que le prix du céréal va être abordable.
Même son des cloches du côté de la direction régionale de l'agriculture de Kuchalam. Elle explique que malgré ces difficultés, l'espoir est permis au regard de la quantité de pluie recueillie, des superficies emblavées et de l'évolution végétative des champs. Amadou Sokoba, directeur régional de l'agriculture de Kuchalam.
En ce qui concerne les céréales, on a pu atteindre les objectifs. Il y a eu même dépassement par endroit. Avec le boycott de la culture du coton, beaucoup de produits se sont apesantis sur les céréales.
Signalons que des insectes destructeurs, notamment la chenille légionnaire, ont fait leur apparition dans certaines zones de la région. Elles ont été vite gérées, assure le service en charge de la protection des végétaux et la DRA. C'était depuis Kuchala, David Koulibaly pour Studio Tamani.
Autre sujet, la journée du droit à l'information a été célébrée le 28 septembre dernier à travers le monde. Elle vise à sensibiliser les citoyens à leur droit d'accéder à l'information détenue par les institutions gouvernementales, le pouvoir de promouvoir la liberté d'information comme fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Pourtant, des difficultés existent au Mali pour avoir accès aux informations. Ali Cissé.
Si l'accès à l'information est un droit fondamental garanti par la loi dans notre pays, y avoir accès est un problème, nous dit le président de la Maison de la Presse. Selon lui, il faut un plaidoyer auprès des médias afin qu'ils tiennent compte de toutes les couches de la société. Draman Alou Kone, président de la Maison de la Presse et promoteur du groupe Renouveau.
Aujourd'hui, l'accès à l'information est un problème réel. Malheureusement, pour le moment, il faut le dire, autant au nom des médias publics et moins privés, ces couches sont laissées pour compte. Il faut aussi un plaidoyer, aussi une formation auprès des médias pour qu'ils comprennent que nous avons le devoir de tenir compte de chaque Malien.
Les personnes sourdes de leur côté se disent exclues de l'accès aux messages de sensibilisation véhiculés par les médias. Elles appellent le gouvernement à s'impliquer davantage pour permettre à cette couche d'avoir un accès égal aux autres à l'information. Moussa Keïta, président de l'association des interprètes de la langue des signes au Mali.
Les sensibilisations des masques qui sont faites au niveau des radios ou de la télévision ne sont pas accessibles à ces personnes sourdes. Nous lançons un appel au ministère de la communication pour qu'ils prennent en compte cette couche spécifique qui a besoin aussi de comprendre l'évolution et les activités qui sont menées au Mali.
Cette 15e édition de la Journée internationale de l'accès universel à l'information s'est penchée sur le droit à l'information en temps de crise et sur les avantages d'avoir des garanties constitutionnelles.
Quatre stagiaires viennent de boucler 3 mois de stage au studio Tamani. Ces apprenants ont affirmé avoir été outillés en technique de reportage, de collecte et de traitement d'informations dans l'exercice du journalisme. Imran Akilumaïga.
Ces formations ont pour but de renforcer les compétences des hommes de médias à pouvoir traiter des informations fiables, crédibles et indépendantes, explique Mohamed Touré, rédacteur en chef adjoint du studio Tamani.
Aujourd'hui, on en a formé plus d'une quarantaine pour contribuer au renforcement de leurs capacités pour une bonne information au service du citoyen lambda. L'idée, c'est pas de recevoir seulement des journalistes, nous recevons également des techniciens.
Pendant ces 3 mois, nous avons appris les techniques d'interview, de montage de son, le respect de l'éthique et de la déontologie, la présentation d'un journal blanc, entre autres. C'est du moins ce qu'affirment Fatima Touré et Boubacar Labaskone.
J'ai appris comment faire des montages, comment m'adresser à des gens sur le terrain, des enrobés, plein d'autres trucs.
La capacité d'angler mes sujets, la capacité également de pouvoir extraire l'essentiel dans une interview, par exemple, de 30 minutes et donner l'information de base.
Selon Omar Sankere et Ali Mayatara, ce passage à Studio Tamani a été une école en termes de traitement d'informations équilibrées et impartiales.
Je vais bien l'utiliser, ça permet de booster ma carrière ailleurs encore et m'ouvrir d'autres opportunités.
Je dirais tout simplement que le studio Tamani est une école, c'est une famille aussi. Je vous assure que j'ai reçu des outils par lesquels je pense m'en servir un jour.
À noter qu'une nouvelle vague de stagiaires est attendue dans les semaines à venir.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Dans quelques minutes, ce sera le grand dialogue. Bonsoir Arkia Touré. Ce soir, vous allez parler de quel sujet ?
Quelles sont les préoccupations des femmes pour la transition? C'est le thème du grand dialogue à Sétou. Nos invités sont Kadiatou Keïta, chercheuse, Togola Awasemega, directrice de kunafoni.com et Abdoulaye Doucouré, avocat sans frontières Canada au bureau du Mali.
Merci et très bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.sidiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant le magazine.